Scène 2. Le vestibule du palais. Entre d'un côté Astolphe et des soldats, et de l'autre l'infante Estrelia et ses dames. Bruit de tambours et de trompettes. Astolphe. À votre apparition, noble madame, les trompettes et les tambours font entendre leurs sons belliqueux, les oiseaux commencent leurs chants joyeux, et les fleurs balancent amoureusement leurs têtes charmantes. Les trompettes et les tambours vous saluent comme Pallas, les oiseaux comme l'aurore, et comme Flore les fleurs. Et en effet, vous êtes Pallas dans la guerre, aurore pour l'éclat dont vous brillez, et Flore pour le charme dont vous embellissez le printemps. Et, outre cela, vous êtes la reine qui régnait sur mon âme. Estrelia. Si les paroles doivent toujours être en harmonie avec les actes, vous avez eu tort de m'adresser tous ces beaux compliments. Que dément cet appareil guerrier auquel j'aurais voulu me soustraire. Toutes ces flatteries sont, à mon sens, en complet désaccord avec votre conduite. Et remarquez, je vous prie, qu'il n'appartient qu'aux bêtes sauvages, aussi perfides que cruelles, de caresser au moment où elles tuent. Astolphe. Vous êtes bien mal instruite de mes sentiments, noble Estrelia, puisque vous doutez de la sincérité de mon hommage. Veuillez m'écouter, je vous en conjure. Ostorg, troisième du nom, roi de Pologne, étant mort, eut pour héritier Basilio et deux filles, de qui vous et moi nous sommes nés. Je ne veux point vous fatiguer à vous conter rien qui soit hors de propos. De ces deux filles, Chlorilde, qui aujourd'hui repose en paix dans un séjour meilleur, était l'aînée et fut votre mère. Recisonde, la cadette, que Dieu conserve 1000 années, se maria en Moscovie, et c'est d'elle que je suis née. Maintenant, pour venir à un autre point, Basilio, qui touche déjà à la vieillesse, après avoir toute sa vie dédaigné les plaisirs et négligé les dames pour l'étude, est devenu veuf sans enfant. Et vous et moi nous prétendons lui succéder. Vous, vous dites en votre faveur que vous êtes fille de la sœur aînée. Moi, je réponds que je suis, il est vrai, le fils de la sœur cadette. Mais que, comme homme, je dois être préféré. Nous avons soumis le différend à notre oncle. Il nous a répondu qu'il voulait nous réconcilier. Et dans ce but, il nous a invités, tous deux, à nous trouver aujourd'hui en ce lieu même. Voilà avec quelle intention je suis venu ici. J'aime mieux vivre en paix avec vous que de vous faire la guerre. Il est mal à vous de me la déclarer. Oh, veuille l'amour, ce Dieu plein de sagesse, que le vulgaire, dont les prédictions s'accomplissent si souvent, ne se soit pas trompé dans les acclamations avec lesquelles il nous a reçus tous deux. Puissiez-vous en effet être reine, mais l'être de mon consentement et de ma volonté. Puisse notre oncle, pour que votre gloire soit complète, vous donner sa couronne. Votre mérite vous attirer un triomphe si flatteur, et mon amour mettre à vos pieds un empire. Estrelia. Mon cœur ne vous cède pas en générosité, car je ne serai contente d'avoir l'empire du monde que pour vous en faire hommage. Et cependant, je crains bien que mon amour ne vous trouve ingrat. Car, dites-moi, ce portrait que je vois suspendu sur votre poitrine, ne dément-il point vos discours ? Astolphe. Je puis vous donner aisément satisfaction à cet égard. Bruit de tambour. Mais ce n'est pas le moment. Ce bruit m'annonce que le roi sort avec son conseil. Entre le roi Basilio et sa suite. Estrelia. Sage Thalès. Astolphe. Docte Euclide. Estrelia. Qui connaissez le cours des astres. Astolphe. Qui avez apprécié l'influence diverse des étoiles. Estrelia. Permettez que je vous presse dans mes bras. Astolphe. Souffrez que je me prosterne à vos pieds. Le roi. Embrassez-moi, mes enfants, et puisqu'en venant ici, vous m'avez montré tant de déférence, et que vous me témoignez de tels sentiments, croyez bien qu'aucun de vous n'aura lieu de se plaindre. Croyez bien que vous serez satisfaits l'un et l'autre. Seulement, ayant à vous confier mes désirs et mon projet, je vous demande un moment de silence. Pour ce qui est de votre approbation, vous me la donnerez après, si vous êtes content. Écoutez-moi donc avec attention. Vous savez déjà, mes enfants, et vous aussi, noble cour de Pologne, parents, amis et vassaux, que ma science m'a mérité dans le monde le surnom de docte, et que nos peintres, nos statuaires, rivaux de Timanthe et de Lysippe, ont reproduit mille fois mon image pour immortaliser celui qu'ils appellent le grand Basilio. Vous savez aussi que la science dont je m'occupe le plus, et pour laquelle je professe le plus d'estime, ce sont les mathématiques, science au moyen de laquelle j'enlève au temps et à la renommée le privilège de m'apprendre les choses encore inaccomplies ou inconnues. Car lorsque je vois présentes sur mes tables les nouveautés des siècles futurs, n'est-ce pas comme si j'accompagnais le temps lui-même dans sa marche éternelle, montrant le ciel, cette voûte azurée sur laquelle se promènent mes yeux, que le soleil illumine de ses rayons et que la lune éclaire la nuit d'une douce lumière, ces orbes de diamants, ces globes de cristal, ces astres, ces étoiles, voilà la plus chère étude de ma vie. Voilà le livre précieux sur lequel le ciel a tracé clairement en lettres d'or notre destinée à tous, soit heureuse, soit malheureuse. Ces livres, je les lis aujourd'hui avec tant de facilité qu'avec mon seul esprit et sans nul secours étranger, je les suis à toute heure dans leur rapide mouvement. Mais plût au ciel qu'il ne m'eût pas été donné de les comprendre, et qu'ils eussent prononcé contre moi le trépas le plus affreux, car ne vaut-il pas mieux pour un infortuné mourir prématurément dans une sanglante tragédie que de trouver sa perte dans sa propre science et de devenir ainsi l'homicide de lui-même? Vos regards me demandent le sens de ces paroles. Je vais vous l'expliquer en requérant de nouveau votre silence et votre attention. De Clotilde, mon épouse, j'ai eu un fils infortuné, dont l'enfantement fut accompagné d'étranges prodiges. Sa mère, lorsqu'elle le portait dans son sein, triste sépulture des hommes qui précèdent la vie, de même que l'autre suit la mort, comme si Dieu nous eût voulu placer entre deux tombeaux. Sa mère, en dormant, avait rêvé mille fois qu'il sortait de ses flancs un monstre à figure humaine, impétueux et farouche, qui, en naissant, lui donnait la mort. Le jour de l'accouchement arriva, et le présage s'accomplit. Car ces songes que le ciel nous envoie, pourvu qu'on sache les interpréter, ne nous trompent jamais. Au moment où l'enfant naquit et où fut tiré son horoscope, le soleil, taché de sang, venait de provoquer la lune au combat. Les deux astres luttèrent avec un acharnement sans égal. Et là, l'on vit l'éclipse la plus complète, la plus horrible que le soleil ait subie depuis celle qui signala la mort du Christ. On eût dit que cet astre était arrivé à son dernier paroxysme et qu'il allait disparaître à jamais dans ce sombre incendie. Les cieux s'obscurcirent, les édifices tremblèrent sur leurs bases, les nuées laissèrent tomber une pluie de pierres, et les fleuves coulèrent, rougis de sang. C'est au milieu de tous ces prodiges que naquit Sigismond. Et en naissant, il montra ce qu'il serait, puisqu'il donna la mort à sa mère, lui témoignant ainsi sa reconnaissance. Pour moi, j'interrogeais mes livres, je consultais les astres, et là je vis que Sigismond serait l'homme le plus intraitable, le prince le plus cruel et le monarque le plus impie, que sa cour serait une école de perfidies et de vices, que les peuples se lèveraient contre lui, et qu'emporté par sa fureur, il ajouterait à tous ses crimes, je ne le dis ici qu'avec honte, de me renverser du trône et de me faire prosterner à ses pieds. Quel homme n'est point disposé à se croire menacé dans l'avenir, surtout quand ses propres études le lui annoncent? Donc, croyant à ces présages funestes et au malheur que m'annonçaient les destins, je résolus de renfermer la bête sauvage qui venait de naître, pour voir si le sage peut éviter l'influence des étoiles. En conséquence, je fis publier que l'enfant était mort en naissant. L'on construisit une tour au milieu des rochers de ces montagnes, qui sont d'une telle élévation que la lumière du jour ne peut que difficilement y pénétrer. Et des édits publics défendirent, sous les peines les plus graves, que personne entrât dans une certaine partie de la montagne. C'est là que vit enfermé le triste et malheureux Sigismond, qui, dans ce lieu, ne connaît que le seul Clotaldo, et n'a jamais vu, jamais entendu un autre homme. C'est Clotaldo, l'unique témoin de ses misères, qui lui a enseigné les sciences et l'a instruit dans la foi catholique. Maintenant, voici trois choses. D'abord, ma chère Pologne, c'est que j'ai pour toi tant d'amour que je veux te délivrer de l'oppression d'un tyran, car il ne serait pas un bon roi, celui qui mettrait son pays en un si grand péril. En second lieu, je considère que si je prive mon sang des droits que lui ont accordés les lois divines et humaines, c'est agir contre la charité chrétienne, car rien ne m'autorise à être moi-même un despote afin d'empêcher un autre de l'être, et de commettre un crime afin que mon fils n'en commette point. Enfin, et en dernier lieu, je vois que j'ai eu grand tort de donner un tel crédit à de malheureux pronostics. Car, bien qu'il ait de mauvaises inclinations, peut-être les aurait-il surmontées. D'autant qu'après tout, la planète la plus puissante peut bien faire incliner d'un côté ou d'un autre notre libre arbitre, mais ne peut pas le diriger d'une manière fatale et irrésistible. C'est pourquoi, au milieu de tous ces doutes et de toutes ces incertitudes, je me suis arrêté à un parti qui va bien vous surprendre. Demain, sans plus tarder, je veux que Sigismond, tout en ignorant qu'il est mon fils et votre roi, s'asseye sur mon trône royal pour vous gouverner en mon lieu et place, et que tous vous acceptiez son gouvernement et lui juriez obéissance. Par là, j'obtiens trois avantages qui correspondent aux trois difficultés que j'ai dites. D'abord, c'est que si l'habitant des montagnes se montre prudent, sage et bon, et qu'il démente son funeste et redoutable horoscope, vous posséderez à la tête de l'État votre roi légitime. En second lieu, s'il est orgueilleux, intraitable et cruel, et qu'il s'abandonne sans frein à tous les vices, alors j'aurai largement accompli mes obligations. Je pourrai le déposer en usant du pouvoir qui m'appartient. Et quand je le ferai ramener à sa prison, ce ne sera plus cruauté, mais châtiment. Enfin, en troisième lieu, mes vassaux, si le prince est tel que je viens de dire, mon affection vous donnera des rois plus dignes de porter la couronne et le sceptre. Ce seront mes neveux, qui, réunissant et confondant leurs droits par un heureux mariage, obtiendront l'empire qu'ils ont mérité. Voilà ma prière comme père, mon avis comme savant, mes conseils comme ancien, mes ordres comme roi. Et s'il est vrai, ainsi que l'a dit l'Espagnol Sénèque, qu'un roi n'est que l'esclave de ses sujets, voilà mon humble supplique comme esclave. Astolphe. S'il m'appartient, Seigneur, de vous répondre, comme étant celui qui est le plus intéressé en cette affaire, je vous invite, au nom de tous, à faire revenir Sigismond, car nous devons lui céder, puisqu'il est votre fils. Tous. Oui, Seigneur, rendez-nous notre prince. Nous le demandons pour roi. Le roi. Je vous suis reconnaissant, mes vassaux, de l'attachement que vous me témoignez. Accompagnez à leur appartement ces deux soutiens de mon empire. Demain, vous verrez Sigismond. Tous. Vive le grand roi Basilio. Tous se retirent à la suite d'Astolphe et d'Estrelia. Le roi demeure seul et entre Clotaldo, Rosaura et Clairon. Clotaldo. Puis-je vous parler, Seigneur ? Le roi. Soyez le bienvenu, Clotaldo. Clotaldo. Il ne peut pas en être autrement, Seigneur, lorsque je viens à vos pieds. Et, cependant, le destin a été pour moi bien cruel, puisqu'il m'a fait enfreindre vos lois et vos ordres, à mon insu, contre ma volonté. Le roi. Qu'est-ce donc ? Clotaldo. Hélas, j'en suis réduit là qu'un événement qui aurait dû être pour moi le plus grand sujet de joie n'est qu'une disgrâce et un malheur. Le roi. Expliquez-vous. Clotaldo. Ce beau jeune homme que vous voyez devant vous a pénétré par mes gardes dans la tour où le prince est renfermé. Et ce jeune homme ? Le roi. Soyez sans inquiétude, Clotaldo. Si cela fût arrivé un autre jour, je n'aurais pas été content, je l'avoue. Mais à présent que j'ai révélé ce secret, il m'importe peu que ce jeune homme le connaisse. Venez me voir dans un moment. J'ai à vous conter beaucoup de choses, et je veux vous confier une mission du plus haut intérêt, en vous avertissant d'avance que vous allez jouer un des principaux rôles dans un événement jusqu'ici sans exemple. Quant à ces prisonniers, j'excuse votre négligence, et je leur pardonne. Il sort. Clotaldo. Vivez, vivez 1000 siècles, grand roi ! À part. Le ciel a eu pitié de mon sort. Maintenant que la nécessité ne m'y force pas, je ne dirai point qu'il est mon fils. Oh ! Étranger, vous êtes libre ! Rosaura. Je vous baise les pieds 1000 fois, Clairon. Et moi aussi, avec beaucoup de politesse. Rosaura. Vous m'avez donné la vie, Seigneur. Et puisque je n'existe que par vous, je veux être à jamais votre esclave. Clotaldo. Je ne vous ai point donné la vie, car un homme bien né, quand il a reçu un outrage, ne vit plus. Et puisque vous êtes venu, dites-vous, avec le projet de vous venger d'un outrage, je n'ai pas pu vous donner la vie que vous n'avez pas apportée en vous-même, car une vie infâme n'est pas une vie. À part. Certes, ces paroles doivent exciter son courage. Rosaura. Oui, bien que vous m'ayez donné la vie, j'avoue que je ne vivrai point jusqu'à ce que je me sois vengée. Mais bientôt ma vengeance sera complète. Bientôt j'aurai rétabli mon honneur. Et alors vous me permettrez de dire que je vous dois la vie. Clotaldo. Prenez cette épée que vous portiez avec vous. Elle suffira, je le sais, à votre vengeance. Car une épée qui a été à moi, je parle ainsi à cause qu'elle a été un moment entre mes mains, saura vous venger. Rosaura. Je ceins de nouveau cette épée en votre nom. Et sur cette épée, je jure que je me vengerai, quand bien même mon ennemi serait encore plus puissant qu'il n'est. Clotaldo. L'est-il beaucoup ? Rosaura. Il l'est à un tel point que je ne puis vous le dire. Non pas que je ne fusse prêt à confier plus encore à votre prudence, mais afin que votre protection et vos bontés ne se tournent point contre moi. Clotaldo. Au contraire, me faire cette confidence, ce serait me mettre entièrement dans vos intérêts, et de la sorte, je ne pourrais servir, à mon insu, votre ennemi. À part. Oh, que ne puis-je savoir son nom ? Rosaura. Tant de bonté a droit à toute ma confiance. Eh bien, sachez-le donc, mon ennemi n'est rien moins qu'Astolphe, duc de Moscovie. Clotaldo, à part. Ô ciel, quelle douleur ! Je ne pouvais rien imaginer de plus triste. Oh ! Vous n'y avez pas assez réfléchi, ce me semble. Puisque vous êtes né, moscovite, le seigneur légitime de ce pays n'a point pu vous outrager. Renoncez donc à des projets conçus dans la colère et retournez dans votre famille. Rosaura. Vous avez beau dire, quoiqu'il soit mon prince, il a pu m'outrager. Clotaldo. Il ne l'a point pu, vous dis-je, alors même qu'il vous eût porté la main au visage. Rosaura. Il m'a plus outragé encore. Clotaldo. Parlez donc, car tout ce que vous me direz est au-dessous de ce que j'imagine. Rosaura. Eh bien, soit, mais je ne sais quel respect vous m'inspirez. De quelle vénération et de quelle crainte vous remplissez mon cœur, et j'ose à peine vous confier que ces vêtements ne sont point ceux que je devrais porter. Si donc je ne suis point ce que je parais être, et puisque Astolphe est venu épouser Estrelia, jugez par là s'il a pu m'outrager. Je vous en ai dit assez. Rosaura et Clairon sortent. Clotaldo. Écoute, arrête. Quel est ce confus labyrinthe où je me trouve perdu et où ma raison marche sans guide? Mon honneur est outragé, mon ennemi est puissant, et je suis son vassal, que le ciel me montre le chemin. Mais, hélas, je ne l'espère point, car pour l'homme plongé dans cet abîme ténébreux, tout le ciel n'est qu'un présage, et le monde entier qu'un prodige.